Il est 12h à Kinshasa.
Radio Kapi.
Le journal Bini Ivan Lutumba.
Pour commencer cette édition de journal, nous vous amenons tout de suite à Ituri pour voir le vécu quotidien des centaines de ménages, des déplacés internes et réfugiés congolais qui tentent de regagner leur domicile sous la lisière du lac Albert en territoire des Djougou. Leurs besoins sont divers, des divers ordres, nous dit Isaac Moyope depuis Bounia. Dans cette édition, nous vous ferons découvrir comment depuis Bukavu, le recyclage des déchets plastiques constitue une aubaine pour les opportunités d'emploi et source des revenus. Le ministre congolais de l'entrepreneuriat et le PNUD appuie un projet pilote dans ce secteur avec plus ou moins 19 000 dollars lors dans nos poubelles, ainsi est nommé ce projet. La situation actuelle de l'entreprise Transco, nous en parlons en fin de cette édition avec Chief Chipamba Ngamambalu, directeur général intérimaire de cette compagnie de transport qui est notre invité. Des difficultés, il y en a qui nécessitent des actions urgentes et concrètes, fidèles auditeurs. Merci de vous maintenir sous la fréquence de Radio Okapi pour vous informer. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. À Ituri, des centaines de familles, des déplacés internes et des réfugiés congolais retournent dans leur village d'origine le long du lac Albert en territoire du Djougou. Selon la société civile de cette entité, ce mouvement retour est dû essentiellement à l'accalmie observée depuis plus d'un mois dans cette zone. Cependant, les chefs coutumiers indiquent que la plupart de ces retournés n'ont pas d'abri car leurs maisons ont été incendiées par les groupes armés. Ils sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Isaac Remoyope.
Ces mouvements retours s'observent dans une dizaine de localités à la Kistre en territoire des Djougou, Café, Gbi, Djo, Torges, Mouvaramu et Muganga. Ces villages étaient la cible d'attaques à répétition des miliciens de la Codeco depuis des ans, ce qui a entraîné les déplacements massifs de la population. Certains ont trouvé refuge à Tchomia et à Kassigny, à 60 km aussi de Bounia. D'autres ont traversé la frontière pour s'installer dans des camps de réfugiés en Ouganda. Selon la société civile locale, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans la région. Les tueries à grande échelle ont diminué, sauf quelques cas isolés, ce qui encourage les retours de ces personnes déplacées, ajoute-t-elle. De nombreux parents retournent dans leur village pour scolariser leurs enfants, dont certains avaient déjà passé plus de 3 ans sans aller à l'école. Cette structure citoyenne indique que les conditions de vie dans leur lieu de refuge constituent également l'une des raisons qui favorisent ces mouvements retours. Les autorités coutumières locales demandent au gouvernement et aux humanitaires de venir en aide à ces retournés pour leur insertion communautaire. Certains passent la nuit à la Belle Étoile car leurs maisons ont été incendiées par des hommes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous parlons aussi du vécu quotidien dans une autre entité, dans l'Ituri toujours, c'est à Makayanga. Le bilan de l'offensive des FARDC contre la coalition ADF Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, le dimanche dernier à Makayanga est revu à la hausse. Le gouverneur de province parle de 8 miliciens tués et de 11 autres capturés par les forces loyalistes, ainsi que plusieurs blessés dans les rangs de l'ennemi. De son côté, la société civile de l'Ituri indique que plus de 50 boutiques et maisons d'habitation, ainsi que 4 véhicules, ont été incendiés par ces hommes armés. Pour le moment, un calme s'observe à Makayanga et à Komanda, qui sont presque vidés de leurs habitants, malgré une forte présence de l'armée, qui assure la sécurité avec l'appui de la MONUSCO. Cap vers le Nord Kivu, où au moins 74 ex-combattants démobilisés et autres jeunes à risque sont aujourd'hui au deuxième mois de leur formation à divers métiers à Don Bosco Ngangi, au nord de Goma. C'est dans le cadre du projet de réduction des violences communautaires financé par la section des démobilisations de la MONUSCO. Le projet a été visité hier lundi par le représentant spécial adjoint secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diane. Reportage de Bernard Denyangi.
Ces jeunes filles et garçons proviennent des localités de Kichanga, Mueso, Kashuga et Kalembi en territoire de Masisi. Selon leur choix, ils sont formés en maçonnerie, en coupe et couture et coiffure esthétique, entre autres. Après plus d'un mois de cette formation, qui devrait durer 3 mois, ces jeunes se disent actuellement fiers d'avoir opté pour la vie civile en vue de contribuer à la paix et au développement du pays, comme en témoigne ici cette bénéficiaire.
Merci MONUSCO et Don Bosco de nous voir démobiliser nos frères pour qu'il y ait la paix.
En plus de les encourager, le chef adjoint de la MONUSCO, en charge des opérations et de la protection des civils, demande à ces jeunes de sensibiliser leurs pères qui sont encore en brousse. Kassim Diagne.
Ce que vous avez fait est un geste extrêmement important de dire adieu les armes, adieu la violence et maintenant retrouvons la paix. Je vous exhorte donc à encourager d'autres personnes qui sont encore dans les bandes armées. Dites-leur que nous sommes prêts à les accueillir parce que sans la paix, il n'y a pas de développement.
Rappelons que parmi ces jeunes, on peut identifier ceux qui sont venus des groupes armés comme APCLS de Janvier Kalaeri et un de ces rénovés de Guidon, entre autres. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Parlons à présent de cet appel à la solidarité. Moïse Katumbi Tshapwe appelle tous les Congolais vivant au pays et de la diaspora à venir en aide aux sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier à Goma. Pour le président national du parti politique Ensemble pour la République qui séjourne à Goma depuis hier lundi, les conditions de vie des sinistrés sont tout simplement inadmissibles et le gouvernement doit faire quelque chose pour améliorer cette situation. Moïse Katumbi a fait ses déclarations à l'issue de sa visite aux sinistrés vivant dans le site de Kahembe, en groupement Munigi, territoire de Nyiragongo. Ici, cet acteur politique a mis à disposition au moins 5 camions de vivres aux sinistrés. Un extrait de sa déclaration choisi par Sifama Gourou.
Je suis venu voir les sinistrés de Goma. Je suis venu compatir avec la population de Goma pour voir la situation de nos frères. C'est ça le plus important, le social de la population. Le gouvernement est en train de travailler et il y a encore des efforts que le gouvernement doit fournir. Nous avions donné notre petite participation concernant la solidarité avec nos frères et sœurs du Katanga. Il y a eu une contribution de plus ou moins 300 000 dollars que nous avions donné. Aujourd'hui, nous avons amené de vivre. On ne va pas laisser seulement la tâche au gouvernement. Moi, je demanderai à tous les Congolais, tous les opérateurs économiques congolais, tous les Congolais de bonne foi vivant aussi dans la diaspora, de penser à Goma. Ce que je vis là, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis mis à la place de cette maman avec 4 gosses dans une petite maison qui ne fait même pas 10 mètres carrés. Donc le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts. Nous sommes dans l'Union sacrée et je vais écrire au Premier ministre. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. On peut améliorer cette situation.
Vous nous suivez depuis la province du Maniema où il est 13h07. Nous parlons actuellement du lancement hier lundi 27 septembre à Kalima du projet dénommé projet de préparation aux désastres et réponse multisectorielle aux besoins humanitaires urgents des ménages les plus vulnérables victimes des conflits armés ou d'événements climatiques extrêmes. Une initiative de Caritas Kasongo en collaboration avec l'Agence catholique d'Angleterre et d'Outre-mer pour le développement CAFOD. Ce projet de 24 mois a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par les désastres d'origine humaine ou naturelle au Sud Kivu et au Maniema. Il est financé par la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire. Plus de précisions avec Djoko Kazimire, chef de projet Caritas Kasongo. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Pour la partie du Maniema, il y a 3 territoires qui sont concernés pour ce projet. C'est les territoires de Pangi, Kabambare et les territoires de Fizi. Et pour ce qui est du territoire de Pangi, ce projet s'étend dans les groupements d'Insangue et les groupements Ulimba. Et dans les territoires de Kabambare, c'est le groupement Kanyengele qui est pris en compte. Ce projet se donne l'objectif de renforcer les capacités des communautés, des zones ciblées pour aider à identifier les désastres auxquels elles sont exposés, à formuler des plans de contingence, à alerter et à faire face aux menaces multiples qu'elles sont confrontées. Et c'est un projet qui s'assigne 3 résultats. La préparation au désastre, les réponses rapides et le relèvement précoce. La préparation au désastre n'est outre que l'ensemble des mesures prises par le gouvernement, des organisations, des communautés ou des individus afin d'améliorer la réaction à une catastrophe naturelle. Origine naturelle ou humaine, ainsi que la gestion des suites immédiates.
Nous parlons présentement de cette activité du ministre de l'Entrepreneuriat, Eustache Mouanzi, dans le Sud Kivu. Il y a eu lancement hier lundi 27 septembre à Bukavu du projet pilote d'économie circulaire L'or dans nos poubelles. Un projet de transformation des déchets plastiques en opportunité d'emploi. Ce lancement officiel a été fait par le ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises en présence de plusieurs entrepreneurs de Bukavu. Ce projet est instauré par la structure d'encadrement Kivutech et financé par le PNUD à plus de 19 000 dollars pour une durée de 4 mois. Rachel Kessembangou nous en dit plus.
La collecte des déchets, le tri, la transformation et le pavage, tel est le processus du projet L'or dans nos poubelles. Projet qui sera bientôt exécuté dans la ville de Bukavu. Une initiative encouragée par le ministre de l'Entrepreneuriat et PME qui, après ses échanges avec les entrepreneurs de Bukavu, promet l'accompagnement du gouvernement à ces derniers. Eustache Mouandi.
Je suis d'autant plus heureux ce jour que je sois passé ici, lancer le projet Or dans nos poubelles, ce projet qui voudrait transformer les déchets plastiques en pavés pour créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse. Et le gouvernement de la République accompagne toutes ces actions pour la création des emplois.
Les entrepreneurs de Bukavu satisfaits de la visite du ministre qui, selon eux, leur donne un coup de pouce. Nicole Menemene.
Chaque fois qu'on a des autorités qui viennent visiter, nous sommes ravis parce qu'on s'est dit, nous, avec ce genre d'activité, on est encouragés, on est plus motivés à produire et à contribuer vraiment à l'économie de notre pays.
Signalons que l'industrie de transformation du dit projet se situe à Kabanda, groupement de Momosho dans le territoire de Kabare. Ce projet de 4 mois est financé par le PNUD à hauteur de 19 100 $. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité en rapport avec la santé à présent. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumbankulu, a réceptionné hier lundi 27 septembre 2021 un lot important de 25 380 doses du vaccin Pfizer dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Il s'agit du deuxième don du gouvernement américain à la RDC à travers le mécanisme COVAX. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
La cérémonie de réception de ces lots des vaccins anti-Covid s'est déroulée au centre de stockage de vaccins du programme élargi de vaccination dans la commune urbano-rurale de Lancélé à Kinshasa. La vice-ministre a réceptionné des mains de l'ambassadeur des États-Unis en RDC et au nom du gouvernement la première allocation des 250 380 doses de vaccins Pfizer sur un total de 4 946 770 doses attendues. Ces doses viennent s'ajouter aux différents types de vaccins reçus précédemment dans le pays. Madame Véronique Kilumbankulu a précisé que les vaccins reçus des États-Unis vont être distribués aux formations sanitaires pour être administrés aux personnes âgées de 18 ans et plus. Et ceci dans les 15 provinces prioritaires où sévit la pandémie. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera, a souligné la vice-ministre avant d'inviter la population à se faire vacciner et à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Les représentants pays de l'USAID, de l'OMS et de l'UNICEF, la directrice du PEV ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur ont pris part à cette cérémonie. Dès la commune de Lancélé, Jean-Pierre Elali Coco, Lokilolinga, Radio Capi.
Et dans la province de la Tchopo, la population du territoire de Yaouma, située à plus de 350 km de Kisangani, en aval du fleuve, tire la sonnette d'alarme au sujet de la maladie de monkeypox qui sévit actuellement dans cette entité. Selon Alfani Lolengo, un enseignant de Kisangani en vacances dans son village à Yaouma, au moins 6 personnes en sont déjà décédées au cours de ce mois de septembre. Les infirmiers étant en grève, il est difficile pour les personnes affectées d'être prises en charge. Il lance ainsi un SOS aux autorités sanitaires afin de trouver une solution urgemment par rapport à cette maladie. Il a été joint au téléphone par Jacques Moukonkole.
Environnante, il y a plus de 6 cas de mortalité dans ma présence à Alto. Il y a les enfants qui sont déjà morts, mais il y a des adultes qui sont en train de souffrir de la maladie déformée même. Après les enquêtes, on avait constaté cette maladie, on avait fait les rapports, mais vu que les infirmiers sont en grève, on n'a pas compte des personnes qui sont morts.
À Bandundu, durcissement de la grève des professionnels de santé non médecins est décrété depuis le mois d'août 2021 en RDC à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu. Le SINCAS, syndicat des cadres du secteur de la santé et l'unique union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, attribue les conséquences fâcheuses résultant de cette grève aux autorités du pays. Dans une interview accordée à Radio Okapi ce mardi 28 septembre, ces deux structures déplorent ce qu'ils appellent mauvaise volonté politique de ces dirigeants qui restent insensibles et indifférents face à ces dégâts. Ils en appellent à une bonne volonté politique afin que la grève soit levée pour le bien de la population. L'AG Séverin Bunga du SINCAS qui l'a dit au micro de Irène Boma. On le suit.
Ce mouvement de grève des professionnels de santé non médecins à travers le pays qui continue jusqu'à ce jour suite à la mauvaise volonté politique de nos dirigeants dans ce pays. Je ne sais pas si les autorités tant nationales que provinciales arrivent à évaluer les dégâts ou dommages collatéraux causés par cette grève des professionnels de santé non médecins. Parmi ces dégâts, nous pouvons citer le nombre de décès maternels et infantiles enregistrés depuis le début de ce mouvement de grève. La proportion des enfants incomplètement vaccinés depuis le mois de juin 2021 à nos jours. Le nombre de femmes insuffisamment vaccinées contre le tétanos. La proportion des indicateurs clés de soins de santé primaire. Personne ne se glorifie à compter le nombre de décès maternels ou infantiles dû principalement à cette grève. Je pense que la grève ici venait de causer beaucoup de tort au pays. On devrait mettre fin à ce mouvement de grève s'il y a une bonne volonté politique.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, l'ANC a dévoilé lundi son programme de campagne pour les prochaines élections municipales. Le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994 promet de se renouveler, de reconquérir ses partisans et de stopper les avancées de l'opposition. Le président sud-africain et leader de l'ANC, Cyril Ramaphosa, s'est exprimé depuis une place publique de la capitale Pretoria en admettant que des erreurs ont été commises dans le passé. La campagne de l'ANC, officiellement démarrée ce lundi, a déjà discrètement pris de l'avance depuis deux semaines, le président Ramaphosa ayant mené les responsables du parti à travers les townships et villages pauvres du pays. Le retrait de Barkhane annoncé pour ce mois de septembre semble se heurter à une guerre des communications. Le général de la force française a répondu aux propos du premier ministre malien qui accuse la France d'avoir unilatéralement décidé de quitter les trois importantes bases de Tessalit, Kidal et Tombouctou. En effet, c'est le 10 juin dernier que le président français Emmanuel Macron dévoilait ce que devrait être la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Trois mois plus tard, Paris parle plutôt de relève sur position.
L'invité.
Notre invité est Tif Tipamba Ngambamalu, directeur général intérimaire de la société de transport Transco. Avec lui, nous parlons de la situation de cette entreprise de l'État congolais depuis son arrivée à sa tête. La société Transco n'est pas loin d'une entreprise en difficulté, affirme-t-il. Il répond aux questions de Célestine Massoudine Tambwe.
Monsieur Tif Tipamba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur général ad intérim de l'entreprise Transco. Comment se présente l'état de santé de l'entreprise depuis votre arrivée à sa tête?
Non, l'état de santé de l'entreprise Transco n'est pas loin d'une entreprise en difficulté. C'est pour autant dire qu'il a beaucoup de soucis. Nous avons hérité de cette entreprise sans un secrétariat de direction générale, sans imprimante, sans ordinateur. Nous avons hérité cette entreprise avec 177 stagiaires professionnels qui ont traîné depuis 4 ans, avec une catégorie de travailleurs appelée des confinés. Des agents sous action disciplinaire non clôturée, ça fait plus d'une année. Nous l'avons hérité également avec une catégorie de chauffeurs appelés journaliers et temporaires, alors que Transco a un personnel de 2552. Et dans les 2552 là, on ne s'est pas trouvé le nombre de chauffeurs suffisant pour rencontrer ce problème là. Donc on a dû faire recours aux temporaires et aux journaliers. Ce sont autant de mots qui rongent Transco sur lesquels nous nous attelons pour essayer de relever le niveau.
Monsieur le directeur, actuellement, quel est le nombre exact des bus en circulation?
On a près de 200 bus en circulation, on s'est compris, les anciens bus qu'on a ressuscités. Il y a près de 200 bus, pas parce qu'il n'y en a pas assez, mais c'est plutôt parce que les routes également nous font défaut. Donc si je décidais de larguer tous mes bus en circulation, rassurez-vous, on ne pourra pas circuler, la population ne pourra se mouvoir. Donc on a besoin qu'il y ait des routes, que la police de circulation routière soit très efficace pour décanter, dégager le voie et décongestionner, voilà quoi.
Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de bus qui sont hors service, faute de dépannage. Est-ce qu'il y a une solution déjà trouvée pour ça?
Non, de bus hors service, ce sont de vieux bus, notamment le 161 qu'on a trouvé là-bas, dans le lot duquel nous avons ressuscité le 43, comme je disais tantôt. Par rapport au bus Volvo, rassurez-vous, jusqu'à 3 ans, nous sommes suivis et entretenus par le concessionnaire qui nous a vendu le véhicule. On vient de dédouaner 16 containers, il en reste 4 qui pourront atteindre Kinshasa, je crois, la semaine prochaine. Sur ce point-là, il n'y a pas trop de crainte. Mais la grande question, c'est celle de savoir qu'adviendrait-il après les 3 années de contrat, alors que nos recettes ne nous permettent pas de rencontrer le budget d'exploitation.
Parlons, ça, 61 bus trouvés encellés, des bus cannibalisés, sabotés. Est-ce que des auteurs de ce sabotage sont déjà répertoriés, identifiés? Et quelle est la situation, en fait?
En fait, tout ne commence pas par des arrestations, n'est-ce pas? Les responsabilités doivent être établies, les enquêtes sont en cours. Donc, à l'issue des enquêtes, qu'on pourra savoir qu'en est-il. Mais ici, de préciser que c'est quand même bizarre parce que lors de la remise et reprise, on n'avait pas fait état de ces bus-là. Le ministre, lors de sa prise de fonction, on lui a jamais rapporté qu'il y avait ce lot de bus de l'autre côté. Il a fallu que nous descendions pour nous en rendre compte. Donc voilà pourquoi on ne s'est pas trop spéculé là-dessus. Il semble qu'il y a des justifications, mais un constat a été fait tel que et les pannes pour lesquelles le bus avait été amené de l'autre côté ne sont plus les mêmes. Les pannes se sont prononcées davantage du fait de la négligence de la garde. Donc voilà un peu, donc les responsabilités seront établies par la commission d'enquête. À mon niveau, je ne fais que constater et appeler, et c'est lui à qui revient le pouvoir de poser des actes et d'instruire.
Y a-t-il une possibilité pour que ce bus revienne à la circulation?
J'en ai ressuscité 43 ici. Si je puis le faire ici, sûrement que ça demandera plus de moyens de l'autre côté parce que les pannes sont devenues très aggravées. Mais ici sur place, dans la parcelle, avec la direction technique, on a pu remettre en marche 43 bus et bien d'autres jeeps de personnel.
Certains observateurs, monsieur le DG, disent que les prix fixés ne reflètent pas la réalité, c'est-à-dire que les prix sont trop bas par rapport à vos charges. Comment vous organisez à l'interne pour faire face à tout ça?
C'est compliqué, voilà pourquoi nous demandons l'aide de l'État. En 2013, quand on créait Transco, le dollar était à 970 francs congolais, 1 dollar, le prix du billet était à 500. Aujourd'hui, le dollar est à 2000 quelque chose de francs congolais, le prix du billet reste à 500. Donc la valeur de 500 francs a chuté de 4 fois, ce qui n'est pas normal. Je voudrais bien que ceux-là qui ont la capacité d'organiser des marches pour revendiquer, qu'ils revendiquent également que société et qu'on revoie le prix à la hausse du billet de la société Transco pour permettre à ce que la société survive très longtemps.
Il y a un grand nombre de vos agents qui ont grévé dernièrement. Ils ont suspendu leur mouvement grâce à une promesse de paiement progressif. Où en êtes-vous?
C'est le dialogue social qui est le maître mot quand on gère pareille situation. Dans une société où le syndicat est désavoué, c'est le dialogue social. Je parlais avec eux, on a diagnostiqué la situation de l'entreprise avec eux, je fais intervenir la banque, j'ai négocié avec la banque qui est en train de nous accompagner, voilà pourquoi vous le voyez, je viens aller reprendre le travail. Et j'insiste une fois de plus, vous pouvez compter le nombre de fois que je suis revenu dessus durant cette interview. Et c'est pour demander au pouvoir public d'intervenir, de nous prêter main forte pour que le démon qui ont réclamé les aïeux des Transco ne revienne pas à charge.
Pour finir, monsieur le directeur général, le docteur Muyembe a annoncé une probable quatrième vague de Covid-19 d'ici octobre ou novembre. Nous connaissons que dans les bus Transco, les gens se bousculent souvent à l'interne. Comment vous vous êtes organisé pour affronter cela?
Que le service de l'ordre nous aide, parce que moi, à mon niveau, j'ai des contrôleurs qui sont là pour ranger les gens et les introduire dans le bus. Mais il y a des fois où nous sommes débordés. Il y a des fois où mes agents sont menacés par des clients. Parce qu'ils veulent faire respecter les mesures barrières. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de services de l'ordre pour nous prêter main forte. Une fois de plus, avec ce souci-là, il faudra que le gouvernement intervienne davantage pour nous permettre de juguler la crise, de traverser la crise tout en maintenant Transco en vie.
Monsieur Tifti Pamba, directeur général de l'entreprise Transco, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
À vos auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Noël Alouzi Toup et l'équipe Elamondo. Polydor Basunga assurait la prise des sons et la mise en onde, et Billy Van Lotumba était à la présentation.